Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Ravi de vous retrouver, 13h passées 2 minutes sur Sud Radio. Dans un instant, Les Incorrectibles avec un invité qui ne manie pas la langue de bois. Ce sera Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National. A tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, comme chaque semaine en direct sur Sud Radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux. Une émission, vous le savez, le politiquement correct n'a pas sa place et nos invités nous le prouvent chaque émission. Nous sommes ensemble pendant une heure. C'est parti pour les Incorrectibles.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors, on ne présente plus mon invité de ce dimanche, à la fois avocat au barreau de Marseille, député européen sur la liste du Rassemblement National et écrivain, soutien de Marine Le Pen, il vient, tout comme elle, d'être jugé dans le cadre de la diffusion de photos d'exactions de Daesh sur les réseaux sociaux en 2015, sujet sur lequel nous allons bien sûr revenir dans cette émission. Et comme à notre habitude, nous allons également recueillir les impressions de notre invité sur ce qui fait l'actualité du moment. Gilbert Collard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation des Incorrectibles. Vous êtes avec nous donc en duplex, comme on peut peut-être l'entendre et le voir pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux en vidéo. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, Gilbert Collard, on va se détendre un court instant. Vous êtes prêt pour une petite devinette ?
Allez,
on y va. Je présente en tant que journaliste chaque jour de la semaine le 6h Info sur France 2, chaîne de service public financée par la redevance. Je présente en tant que journaliste chaque jour de la semaine la matinale sur France Info TV, la chaîne de service public financée par la redevance. Je présente en tant qu'animateur cette fois chaque jour le jeu Question pour un champion sur France 3, chaîne de service public financée par la redevance. Je présente en tant que citoyen sur ma chaîne Twitch à mon domicile depuis peu un rendez-vous interactif où j'accueille des politiques. Après François Hollande, je reçois ce dimanche à 18h, l'heure à laquelle commence le couvre-feu au passage, le Premier ministre Jean Castex. J'ai indiqué il y a quelques jours que je ne recevrai pas de membres du RN car, je cite, pour moi le RN n'est pas forcément un parti qui a toujours joué la carte de la République. Et puis, rétropédalage, en fin de semaine, j'invite Marine Le Pen à venir parler sur ma chaîne, mais à condition que la discussion ait lieu ailleurs que chez moi. Je suis...
C'est une question très difficile, très compliqué, il faut une intelligence affinée pour répondre. Mais écoutez, je prends le risque, à la tienne, Étienne. Je prends le risque. Ça ne serait pas Girouette Info, Étienne, Twitch.
C'est ça, on voit que vous avez presque deviné. C'est Samuel Etienne, donc l'animateur de Question Champion et présentateur donc de la matinale de France Info.
Qui quand même, au passage, si je peux me permettre, profite de sa notoriété subventionnée par la redevance.
Ah, qui est particulièrement naissante depuis une semaine, parce qu'on n'en entendait pas énormément parler. Enfin bon, présentateur de Question pour un champion, mais dans le domaine du journalisme, bon,
il a. Vous connaissez pas trop, non. Ouais. Moi, j'ai fait quelques interviews avec lui. Bon, c'était pas le journaliste phare, mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Comment il a pu utiliser sa présence à France Info, ce qui du reste commence à émouvoir la direction, parce qu'aujourd'hui dans le JDD, il y a une interrogation de sa direction qui se demande comment il va falloir gérer à la fois l'activité extérieure, à la chaîne, au groupe.
Oui, parce qu'il dit qu'il parlait en tant que citoyen, mais il est journaliste également, donc ça vous choque quand il dit, je cite encore une fois, le RN n'est pas forcément un parti qui a joué la carte de la République. Il n'a pas précisé exactement le détail de cet argument qui est plutôt vague. Vous ne jouez pas la carte de la République, Gilbert Collard ?
Bon, ben, je sais pas. En tout cas, je joue pas aux cartes. Je le laisse lui jouer à la belote des réseaux sociaux s'il veut. Mais ce que je constate, c'est qu'il se dit citoyen, mais il invite François Hollande. Vous me direz, c'était deux comiques en même temps, donc ça manquait pas de piquant. Et puis après, il reçoit en dehors de l'heure légale. C'est quand même. Quelque chose.
Oui, ça, c'est vrai que ça a surpris. D'ailleurs, même avec François Hollande, il était à un mètre de lui et portait pas de masque.
Oui, mais enfin, il risquait rien avec François Hollande. Bon, et puis, voilà. Et alors, il fait la génuflexion habituelle, vous voyez, sur l'autel de l'anti-rassemblement national. Il y a encore des arriérés politiques qui s'imaginent que c'est utile. Voilà, ça qui est incroyable, c'est de voir qu'il y a encore dans le monde médiatique des journalistes qui ont un temps de retard et qui s'imaginent que ça fait bien de dire qu'on ne recevra pas Marine Le Pen. Et puis après, on se rend compte que d'un coup, ça peut être mal perçu. Ça peut être mal perçu.
Ben oui, parce que c'est peut-être une partie de son public, hein, également, dans question.
Et puis, on pourrait aussi décider de puis aller sur sa chaîne. Hein. Bon, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne des coups de pompe dans les fesses et qu'on aille dire merci. On pourrait parfaitement décider, l'ensemble des représentants du Rassemblement national, de ne plus répondre à ces invitations, sinon...
Donc là, vous invitez les représentants du Rassemblement national, alors d'abord à Marine Le Pen à ne pas accepter cette nouvelle invitation, et paradoxalement, à peut-être ne plus aller sur France Télévisions, c'est ça ?
Pas d'une manière générale, mais au moins, tant qu'il ne se sera pas excusé pour cette...
Ou du moins dans les rendez-vous présentés par Samuel Etienne, c'est ça ?
Oui, bien sûr, parce que pourquoi cette désobligeance anti-républicaine ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis après, venir dire « mais moi je ne les reçois pas chez moi, mais en dehors de chez moi, non, attendez, on est des pestiférés. » Moi, je suis prêt à répondre à son interview dans un bar, puisqu'ils sont fermés. Voilà, comme ça, je prends pas de risque.
Bon, bah là, au moins, c'est clair. En tout cas, oui, c'est ça. Vous appelez les représentants du Rassemblement national à ne pas aller dans les émissions éventuellement qui seraient amenées à présenter, comme on parle de lui, peut-être pour remplacer Bignolas à Télématin. Vous diriez au Rassemblement national de ne pas aller dans les rendez-vous, dans les flash infos de Télématin, par exemple.
Non, je bouderai à un moment à la Kiel Etienne, tant qu'il ne s'explique pas raisonnablement sur son ostracisme. Mais on a l'impression que c'est devenu une espèce d'obligation d'agenouillement médiatique, politique. Il y a quelques jours, là, je crois que c'était hier ou avant-hier.
Il y a eu les Césars. Hein. Vous avez vu les Césars également ?
Oui, mais je voulais vous dire un petit mot avant qu'on parle des Césars. Il y a Jean-Paul Garot, qui est le candidat du RN en Occitanie. Bon, il est allé déposer une gerbe dans un village qui s'appelle Martre Tozolan, un truc comme ça, quoi. C'est un peu compliqué.
Martolosane.
Voilà, merci de votre aide. Il est allé déposer une gerbe sur un monument qui a été construit, sauf erreur de ma part, par son grand-père. Bon. Et voilà que les élus socialistes, ensaucissonnés dans leur écharpe, ont voulu faire barrage à sa volonté d'aller déposer une gerbe. Non mais, où trouver plus anti-républicain qu'un tel comportement ? Et ils ne se rendent même pas compte du reste que ce faisant, ils exaspèrent la population. Ils exaspèrent vraiment. Mais qu'ils continuent comme ça, je veux dire. Moi, je pense que plus ils en feront, mieux on se portera.
Alors justement, et vous, j'en parlais, vous avez regardé les Césars, on en a beaucoup parlé cette fois-ci parce que là on avait pour beaucoup touché le fond. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est une tribune politique maintenant ?
Ben oui, c'est un peu... Bon, moi, j'ai parfaitement conscience que la culture à laquelle je m'intéresse beaucoup, hein, puisque je suis membre de la commission culture à l'Union européenne, la culture, elle vit des moments terribles, quoi. Bon, on aurait pu dire « César, ceux qui vont mourir te saluent », eh bien, ça a été « César, ceux qui vont mourir te montrent leur cul ». Bon, je veux dire, c'était quand même un peu époustouflant et surprenant. Dans le mot « culture », il n'y a pas le mot « cul », hein, et on n'avait vraiment pas besoin de l'exhibition de Corinne Maziro. Je trouve que ça a été complètement déplacé, alors que la culture, c'est l'enjeu de notre siècle. C'est par la culture qu'on arrivera à la reconquête de l'éducation, à la reconquête de la formation, à la reconquête d'un environnement poétique qui nous manque. Bon, et ce n'est pas en faisant cette espèce de striptease politique que l'on arrivera à libérer la culture qui, pour l'instant, subit, comme nous tous, hein, malheureusement, et inintelligemment en plus, les frappes de la Covid. Hein.
Alors Gilbert Collard, si vous le voulez bien, on va donc parler vraiment politique pour commencer cette première partie de l'émission. Selon un sondage, puisque c'était l'actualité aussi de la semaine, le Rassemblement National, il y a eu un sondage paru donc récemment par l'IFOP dans le Figaro qui a indiqué que 67% des Français anticipent un duel entre Macron et Le Pen de nouveau en 2022. Et surtout au second tour, 48% des Français, selon ces sondages, plus de 7% en augmentation, estiment probable la victoire de la leader du Rassemblement National. Donc l'année prochaine. Votre réaction à cela, est-ce que vous méfiez des sondages ou ces chiffres ne vous étonnent pas du tout ?
Je me méfie toujours des sondages. Mais dans le contexte actuel, dans les échecs répétés de tous les mouvements politiques, dans les compromissions électorales de tous les mouvements politiques, quand on voit que tout ce que nous avons dit, tout sur les frontières, sur la souveraineté, sur la nécessité de renforcer partout la sécurité, sur le rétablissement de l'état de droit dans les banlieues, etc., etc. Bon, tout ce que nous avons dit, qui nous valait à l'époque, rappelez-vous quand même, d'être caricaturé en facho, hein, avec le béret basque, la flûte de pince sous le bras, le camembert dans la poche, la pince à vélo. Bon, ils le disent tous. Maintenant, ça y est, ils parlent de souveraineté, ils parlent de frontières, ils parlent de protection, ils parlent de sécurité. Darmanin va jusqu'à dire à Marine Le Pen qu'elle est un peu molle. Non, Joël Ramolo qui dit à Marine Le Pen qu'elle est un peu molle. Non. Voilà, du simple fait qu'ils aient tous récupéré la doxa, la doctrine politique, voire même parfois le langage, montre que nous avions raison et que c'était une coalition des intérêts, des combines politiques qui faisait que on construisait ce barrage fictif qui ne tiendra plus. Il a rejoint le barrage dit républicain, les farces et attrapes de la politique.
Vous pensez que ça ne fonctionnera plus cette fois-ci s'il y en a un nouveau Front républicain ?
Bon. Du reste, on a bien vu que des représentants de différents mouvements d'opposition à Macron et même à l'intérieur de La République En Marche ont dit qu'ils ne joueraient pas le jeu du Front républicain. Pourquoi ? Parce que le Front républicain, il porte des cornes de cocu depuis des années et des années et des années. On sait très bien que ça a été inventé par François Mitterrand pour maintenir sa place au pouvoir. Jox a dit que c'était une blague. Roland Dumas a raconté que personne n'y croyait. Et Jospin lui-même a dit que c'était de la foutaise. Et il y a encore des arriérés mentaux politiques pour faire barrage au Front National ou au Rassemblement National. Bon, je vous dis, c'est devenu une farce et attrape. Et alors, il y a que des gamins ou des ignorants de la réalité politique qui s'en servent.
Mais Gilbert Collard, quand même, pour être tout à fait honnête, si on en croit ces chiffres, pour la moitié, il faut être précis, ce n'est pas tant Marine Le Pen qui les aurait convaincus et qui les séduirait, ce serait davantage l'expression d'un ras-le-bol politique de La République En Marche, et plus précisément une aversion envers son leader Emmanuel Macron. Vous partagez cette analyse-là ? Vous la reconnaissez ?
Ça peut être, vous savez, moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, hein, mais dans une élection, c'est une alchimie à l'intérieur de laquelle entrent toutes les composantes, hein. Vous savez, c'est bon, c'est pas mon auteur préféré, mais quand on demandait à Lénine comment il avait fait pour arriver au pouvoir, il avait une réponse qui figure dans tous les livres d'histoire. Il avait dit, mais vous savez, on n'a pas eu trop de mal, hein. Les gouvernants s'en sont servis, nos opposants s'en sont servis. Bon, je veux dire que à force de multiplier les fautes, les erreurs, les mépris même, hein, les mépris. Rappelez-vous la manière dont les Gilets jaunes ont été traités quand même, on l'oublie nous, mais ceux qui l'ont vécu ne l'oublient pas, les cafouillages terribles de la lutte contre la pandémie, hein, bon, et même encore aujourd'hui, hein, il n'y a même pas 6% des Français qui sont vaccinés, bon, on se dit, mais qui gouverne quoi ? Bon, alors, c'est pas en allant faire un Twitch chez Étienne qu'on changera la réalité. Alors, on en a marre de la communication, voilà. Je crois que d'un côté, il faut que l'on vive dans une époque de communication, c'est ce que je fais en ce moment, c'est bien, mais la communication, ça doit être le commentaire de la politique, ça doit pas être le remplacement de la politique. Ça ne doit pas être l'illusion de la politique. Or, avec le président Macron et ses séides, on n'a que ça, quoi. Que de la com, et pas de réalité. On le voit à propos du traitement de la pandémie, où tout est dit et son contraire. Aujourd'hui, bon, on voit qu'il faut évacuer des malades, alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de lits, c'était premier qu'on les a pas. Et là, on touche quand même à la vie et à la mort. Donc, on n'est pas dans la spéculation politique. On est dans la tragédie, vraiment.
Et puis on est surtout à un an de cette présidentielle, hein, qui, comme toujours, peut réserver des surprises, on le voit en tout cas à chaque scrutin. Des forces de gauche ou de droite peuvent encore émerger, selon vous. On parle beaucoup d'une candidature éventuelle d'Éric Zemmour. Alors d'abord, est-ce que vous y croyez et est-ce que vous la craignez, Gilbert Collard ?
Alors, il faut toujours se méfier de l'hétérotémie, c'est-à-dire des ruses de l'histoire. Les ruses de l'histoire. Bon, l'histoire, elle prépare des coups de jarnac à chaque coin de rue de son évolution, donc tout est toujours possible. Mais Eric est un ami, moi je ne vais pas faire semblant de pas avoir de relation.
Eric Zemmour, hein, on précise,
hein, pour les auditeurs. Eric Zemmour est un, oui, c'est pas Ciotti. Hein. Eric Zemmour est un véritable ami. Je pense que s'il était candidat, il ferait battre Marine, voilà.
Donc vous le craignez?
Je crée une candidature qui pourrait appauvrir, nous retirer des voix qu'on pourrait avoir, mais c'est clair. Donc, je pense qu'il faut un rapprochement entre Éric Zemmour et Marine, c'est indispensable.
Mais vous ne pensez pas qu'il pourrait même dépasser Marine Le Pen au premier tour ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on oublie quand même trop facilement que Marine, elle offre aux Françaises et aux Français une expérience unique. Celle d'une femme qui a pris des coups, qui a reçu des tempêtes en pleine figure, des tempêtes politiques, affectives, humaines, et qui n'a jamais mis le genou à terre. Et ce dont la France a besoin, c'est de quelqu'un qui ne s'agenouille pas, ni devant la repentance, ni devant l'histoire, ni devant l'Union européenne, ni devant les banlieues, ni devant les zones de non-droit, ni devant la perte de la souveraineté. Voilà. Et elle a cet avantage qu'elle, à l'épreuve du feu, elle a eu ses brûlures et elle a tenu le coup. Et je crois que c'est assez unique.
Enfin, elle a un petit peu changé d'avis sur l'euro, par exemple, Gilbert Collard.
Mais c'est un peu aussi mon opinion depuis le début qu'il fallait changer d'avis sur l'euro. Et j'en ai beaucoup parlé avec elle, et ça prouve aussi qu'elle écoute. Voilà, Marine n'était pas d'accord au début pour le changement sur l'euro. Et puis on a été nombreux à lui parler, moi le premier. Et elle a fini par l'admettre, ce qui prouve que elle est ouverte à la discussion, quoi. Elle est accessible à la dialectique politique, ce qui ne semble pas le cas de Monsieur Macron, qui me fait l'effet d'être particulièrement autoritaire.
C'est vrai qu'on l'a vu très combative, hein, Marine Le Pen, cette semaine, c'était chez nos confrères de BFM TV. Elle semble mieux préparée à présent. Est-ce que vous lui donnez des conseils, Gilbert Collard? Parce qu'on a tous évidemment en mémoire ce débat du second tour, du dernier second tour de la présidentielle.
Non, mais moi, la dernière fois que j'ai vu Marine Le Pen, c'était au bonheur des juges, à Nanterre, banc d'infamie du tribunal correctionnel, et depuis je n'ai pas eu de contact avec elle parce que bon.
Ben oui, parce que cette affaire, parlons-en un instant, elle vous a valu à vous et à Marine Le Pen de comparaître donc devant les juges du tribunal de Nanterre pour des faits qui vous sont reprochés, à savoir donc d'avoir posté, c'était en 2015, des photos d'exactions de l'État islamique sur Twitter et Facebook. Le parquet a requis à votre encontre 5000 euros d'amende, vos avocats, eux, ont plaidé la relax pure et simple. Verdict le 4 mai prochain. Vous êtes senti très blessé par cette procédure, ce que vous avez dit. Marine Le Pen a quant à elle répétait qu'il s'agissait d'un procès politique. Vous êtes d'accord avec elle ?
Ah, tout à fait, mais écoutez, bon, quand on revoit le film...
Il n'y a que des procès politiques en ce moment.
Il y a beaucoup de procès politiques, et ça, c'est un signe vraiment de menace sur la démocratie. Quand on peut craindre que certains juges... Moi, je ne généralise pas, parce que je pense...
Mais Éric Dupond-Moretti est un de vos confrères. Il devrait être le garant de l'indépendance de la justice. Vous n'y croyez pas ?
Le garde des Sceaux n'a jamais été le garant de l'indépendance de la justice. C'est lui plutôt, là, il serait plutôt le garant de la colère de la justice, hein, puisque il vous a pas échappé que les magistrats avaient vu son arrivée comme une provocation. Bon, ce qui peut se comprendre du reste, parce que j'ai du mal à voir un avocat en activité occuper le ministère de la justice. Bon, ça me paraît quand même tout à fait incompatible avec l'activité immédiate, récente et la gestion de ce ministère, surtout quand on a tenu les propos très agressif contre les magistrats. Bon, mais lui, il n'est pas garant de l'indépendance, c'est le président qui est garant. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une inquiétude de politisation de certains espaces judiciaires. Le parquet national financier, par exemple. Mais pour revenir à notre affaire, moi, quand nous avons répondu à M. Bourdin, hein, qui à l'époque avait fait la comparaison entre l'État islamique, Daesh, et le Front National de l'époque. Bon, moi, j'avais répondu... Le poids des mots et le choc des bobos, Bourdin nous compare à Daesh. Voilà. Et j'ai dû m'expliquer.
Mais il aurait dû peut-être être inquiété par la justice, selon vous, pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, par exemple, à votre égard?
Non, parce qu'il aurait bénéficié du droit légitime qu'ont les journalistes de s'exprimer librement et que devraient avoir les députés aussi quand même. Mais quelques heures après le tweet, qui on a vu à l'Assemblée nationale? Le parapluie de Cherbourg, le ministre de l'Intérieur, hein, dire qu'il allait saisir sa police. Et dans les 3 heures qui ont suivi, les 3 heures, vous vous rendez compte, on ose dire que la justice est lente. Non, mais c'est pas vrai. Dans les 3 heures, le parquet de Nanterre ouvrait une information. Voilà. Voilà. Et on s'est retrouvé devant un tribunal correctionnel qui va devoir résoudre une question de droit, de liberté. Bon, on verra bien. Hein. Après, si on est condamné, on fera appel. Et si on est condamné à appel, on ira devant la Cour de cassation, et puis on ira devant la Cour européenne. Hein. Et puis Marine sera présidente de la République, donc elle pourra toujours m'amnistier.
13h passées de 25 minutes sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h en direct, bien sûr, à la radio, mais aussi en vidéo, live, sur les réseaux sociaux, avec notre invité Gilbert Collard du Rassemblement National. Et on continue de parler de cette actualité chargée, actualité notamment politique. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Sud Radio, il est 13h passé de 28 minutes, nous sommes toujours en direct avec notre invité cette semaine, c'est le député européen du Rassemblement National, Gilbert Collard, en duplex avec nous. Gilbert Collard, on continue de parler bien sûr politique, hein, puisqu'on l'a vu une semaine agitée sur le plan politique. Alors on parlait des démêlés judiciaires éventuels de Marine Le Pen et de vous. Parlons à nouveau un instant, si vous le voulez bien, de politique à travers les régionales, puisqu'avant la présidentielle, il y a les régionales. On a l'impression que pour être tête de liste de votre parti, le Rassemblement National, il vaut mieux, parfois, en tout cas dans certains cas, ne pas être issu ou affiché ostensiblement du RN. Comment est-ce que vous expliquez cela, Gilbert Collard ?
Mais écoutez, on ne peut pas à la fois prôner l'ouverture et faire la fermeture. C'est tout simple.
C'est la démonstration. Donc vous partagez ce point de vue ?
C'est la démonstration par l'exemple que Marine et l'ensemble du mouvement, hein, parce qu'on dit Marine, mais il y a tout un mouvement, cherche à installer une réelle ouverture. Voilà. Moi, je trouve que il faut pas oublier pour autant, bien sûr,
les forces vives de votre parti, parce que voilà, pour un petit récapitulatif, Jean Messia, qui était une figure historique de votre parti, eh ben il l'a quitté, le navire. Stéphane Ravier, il est toujours une figure historique, mais on le voit pas beaucoup, en tout cas on le recevait ici il y a peu. Et vous, à l'inverse, alors vous, c'est l'inverse, vous êtes très connu, très populaire, mais regardez un détail sur le compte Twitter du RN, votre venue dans les médias de manière générale, elle n'est jamais relayée. Comment vous expliquez cela? Vous agacez Gilbert Collard au sein de votre parti? Vous êtes un électron libre?
Ah ben ça, pour agacer, j'agace sûrement. Ça, c'est ça, ça, je crois que ça ne fait aucun doute. Mais vous savez, on peut agacer et en même temps être bien aimé. Moi, je suis persuadé que j'agace Marine. Je suis persuadé que je l'énerve par moments. Je suis persuadé que si elle pouvait, elle me tordrait le cou par certains moments. Mais je suis persuadé en même temps qu'il y a entre elle et moi une affection réelle, profonde, absolue, quoi. Je veux dire, bon, on peut ne pas se parler pendant 2 mois et quand on se voit, on est ravi de se voir.
Enfin, faut pas lui faire de l'ombre, hein. C'est ce que je vous pose comme question. Est-ce qu'on
non,
peut...
je crois, je crois que elle n'a aucune crainte que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Hein. Je crois pas, non, non. Je crois pas, non, elle n'a pas besoin de cette crainte, parce qu'elle est quand même, la dirigeante historique. Mais vous savez, imaginons que demain, par exemple, j'ai une raison liée à l'absence de loyauté à mon égard, de dire ce que j'ai à dire. Je le dirai d'une manière théorique, mais je m'attaquerai pas aux personnes. Voilà, ce qui est déplorable, si vous voulez, c'est que...
Enfin, j'ai entendu dire... Attendez, pardon, Gilbert Collard, j'en profite parce qu'il y a une petite rumeur qui circule dans le milieu de l'édition. J'ai entendu dire que vous alliez faire paraître un livre qui promet d'être explosif aux éditions Hugo et compagnie dans quelques mois. C'est vrai d'abord ou pas? Et puis d'autre part, est-ce que ça révélerait une crise au sein de votre mouvement?
Ah, pas du tout, non, mais alors là, écoutez, c'est vrai qu'un livre va sortir, mais si vous comptez sur ce livre pour... apprendre des choses sur le Rassemblement National, sur Marine Le Pen.
Et quoi, c'est un livre sur les fleurs?
C'est d'abord un livre sur les cactus.
D'accord. Piquant, donc.
D'accord, vous me recevez.
Donc c'est un livre piquant.
C'est un livre piquant, voilà. Ben, vous direz, en cette période de piqûre, il faut bien des choses piquantes.
Bon, donc en tout cas, ce ne sera pas un livre critique à l'égard de votre mouvement, c'est ça que vous voulez dire?
Ça va être un livre qui va raconter. Il commence par le rendez-vous que j'ai avec Marine et deux personnes, dont vous trouverez les noms dans le livre, qui m'incitent à la rejoindre. Et comment les choses se font pour que j'en arrive à la rejoindre.
Oui, parce que c'était un petit peu étonnant, votre parcours, il était un peu chaotique, il faut le reconnaître, Gilbert Collard, avant, vous veniez de la gauche, vous étiez un résolu ennemi de Jean-Marie Le Pen.
Ah, moi, je continue à ne pas le supporter, attendez, j'aurais pu faire un pas vers lui s'il avait demandé excuse pour les propos qu'il a tenus au sujet du détail, voilà, ça ne passera jamais, et il le sait, et tout le monde le sait, Donc je raconte aussi le divorce de Pierrette,
l'ex-femme donc de Jean-Marie Le Pen, on le rappelle.
Oui, l'ex-femme de Jean-Marie, une scène extraordinaire lors de la conciliation que je vais pas raconter maintenant parce que sinon je dévoilerai le livre. Comment on a été amené à échanger l'œil de Jean-Marie, l'œil de verre. Enfin voilà, bon, c'est un livre qui n'est absolument pas une charge contre le Rassemblement National. Bon, il y en a un ou deux pour être franc. Pour être franc, il y en a un ou deux qui vont peut-être se sentir écorchés, mais bon, il faut bien…
Ah, qui par exemple?
Ah ben non, ça vous le direz dans le bouquin, mais cela étant dit, ça ne sera pas forcément méchant.
Bon, en tout cas, ça c'est pour la rentrée, comme par hasard d'ailleurs, à quelques mois de la présidentielle. Si vous le voulez bien, on parlait donc tout à l'heure de justice, on va parler aussi de cette actualité, puisque il y a bon d'abord la réforme de la justice du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi, inscrire notamment le secret professionnel des avocats dans la procédure pénale et en rendant possible les perquisitions de cabinet, les écoutes téléphoniques et l'accès aux factures téléphoniques détaillées, les FADET. Que si l'avocat concerné est suspecté, je cite, d'avoir commis une infraction. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, est-ce que vous pensez que Éric Dupond-Moretti est un bon ministre de la Justice, d'une part, et puis d'autre part, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de réforme
Non, on peut pas dire que c'est un bon ministre dans la mesure où, pour l'instant, il n'a strictement…
C'est un bon avocat, au moins.
La dernière fois que j'ai plaidé contre lui, c'était dans une affaire d'assises à Draguignan. Son client avait été acquitté en première instance, je n'y étais pas, et il est reparti avec 15 ans de prison en appel. Mais il a toujours eu cette particularité, Eric, à l'époque on l'appelait Eric, c'est qu'il faisait parler des affaires où il obtenait un acquittement, mais il ne faisait jamais parler des affaires où son client était condamné. Il avait même, dans cette affaire, Malone, je crois, refusé de participer à l'émission « Faites entrer l'accusé » parce que son client avait été condamné. Bon, voilà. Voilà. Bon, mais sinon, cela étant dit, c'est un avocat qui tenait tout à fait sa place. Mais ce qu'il a réussi à faire comme ministre de la Justice, c'est à briser la porcelaine de la susceptibilité des magistrats, parce qu'il les a tellement insultés, rabroués, que bon, son arrivée au ministère de la Justice a été vécue comme un affront. Bon, maintenant, les réformes qu'il veut faire, renforcer le secret de l'instruction, mais tout le monde est d'accord, renforcer le secret du lien entre l'avocat et son client, tout le monde est d'accord. Mais là encore, c'est une affaire de culture, vous comprenez. Il y a des magistrats qui n'auraient même pas besoin d'un texte pour respecter le lien entre l'avocat et son client, entre le médecin et son patient, entre le religieux et son fidèle. C'est une affaire de culture. Alors, que des magistrats en arrivent à écouter pendant 5 ans, comme ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy.
Alors voilà.
Et son avocat, c'est objectivement intolérable.
Ah, voilà où je voulais en venir. Donc, la Chambre correctionnelle de Paris a condamné le 1er mars Nicolas Sarkozy à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an de prison ferme pour des faits, je cite, de corruption et trafic d'influence dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. Il a fait appel. Nicolas Sarkozy a dénoncé, je cite, une injustice profonde, mais pourrait pourtant donc faire l'objet d'une peine plus lourde, on peut aussi l'envisager. L'ancien président a évoqué un harcèlement qu'il subirait depuis 10 ans. Il estime qu'on le condamne sans preuve. Vous aviez tweeté à ce sujet, Gilbert Collard, Dieu sait que je ne suis pas un fan de Sarkozy, mais cette condamnation est pour moi juridiquement incompréhensible. Attendons la cour d'appel. Vous diriez que la justice s'est acharnée sur lui? Elle a voulu en faire un exemple?
Alors écoutez, quand on parle de justice, peu importe le nom du justiciable. qui s'appelle Sarkozy, qui s'appelle Dupont, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle peu importe le nom, toute personne a droit à une justice équitable. Quand je vois une instruction conduite pendant des années et des années et des années et des années, 5 années d'écoute, captation de fadettes, querelle au sein du parquet national financier, où l'on a un vice-procureur qui a le vice de soupçonner Madame Houlette d'être l'informateur à partir d'un SMS délirant. C'est Maître Veil, je crois, qui informe l'avocat de Nicolas Sarkozy, sauf erreur de ma part, hein, parce qu'on s'y perd un peu, qui ne pourront pas dîner ensemble. Bon. Et le vice-procureur en déduit qu'il est informé qu'il y a une surveillance téléphonique. Bon. Et il soupçonne le procureur, Madame Houlette, sous la houlette de laquelle il travaillait, c'est tellement facile que je ne peux pas passer à côté, d'être quasiment l'informateur. Non, mais là, on est chez les dingos. Donc, voilà, ça fait peur.
Vous avez également tweeté, même si Nicolas Sarkozy fait appel, même s'il est relaxé, il est marqué par le fer rouge de la condamnation. Sur le plan politique, c'est l'élimination pure et simple d'un potentiel recours pour les Républicains. Bah, ça devrait vous réjouir.
Qu'on ait un adversaire en moins, je mentirais si je vous disais que ce n'est pas une bonne chose pour nous. Mais qu'on l'ait dans ces conditions, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que si on n'a plus la justice, qu'est-ce qui nous reste ? Je veux dire que 70% des Français n'ont pas confiance dans leur justice. La justice, c'est pas un sentiment politique, c'est un sentiment qu'on porte en nous, qui est viscéralement en nous, d'où qu'on vienne, qui que l'on soit. Et quand on a le sentiment que des juges peuvent se permettre de ne pas respecter la justice, c'est insupportable, quoi. J'ai appris, vous savez peut-être pas, mais j'ai appris qu'au tribunal d'Aix-en-Provence, un avocat qui demandait le renvoi d'une affaire parce que son client avait le Covid et que le président refusait de renvoyer l'affaire, s'est vu expulser manu militari sur ordre du président par les forces de police. On en est là aujourd'hui. Un président d'un tribunal correctionnel fait expulser un avocat en robe par la police de la salle d'audience. Je n'ai jamais vu ça en 35 ans de carrière. Cela veut dire qu'on a affaire quelque part
à une république des juges.
Pardon ?
Vous dénoncez une république des juges ?
Non, je dénonce des comportements de juges qui n'ont plus du tout, chez certains, cette culture humaniste qui m'a émerveillé chez beaucoup de magistrats. Et dont j'ai subi l'écœurement en ne la trouvant pas chez d'autres. Voilà. Mais là encore, c'est toute une affaire de culture, d'éducation. Alors, bien sûr, il faut des lois, bien sûr, mais on ne sait plus où les mettre, les lois, tellement il y en a. Je crois qu'il faut qu'on revienne. Du reste, c'est un avocat. C'est Cicéron. Il faut qu'on revienne à un humanisme. Un humanisme. Mais sans la culture, il n'y a pas d'humanisme.
Oui, mais pardon, vous connaissez aussi le droit. Gilbert Collard, vous êtes avocat. Marine Le Pen est avocate. Nicolas Sarkozy est avocat. Est-ce qu'on ne peut pas non plus considérer qu'en tant qu'avocat, bah, vous devez être exemplaire et presque au-dessus des lois pour certaines. Enfin, vous ne considérez pas comme ayant une forme d'impunité parce que vous n'êtes pas au-dessus des lois en tant qu'avocat. Non, vous devez au contraire la connaître plus que le quidam.
Non, mais c'est pas parce qu'on connaît la loi qu'on peut demander. Qu'on doit être jugé plus sévèrement. Moi, je ne réclame.
Non, mais peut-être éviter un peu plus de la contourner, cette loi, pour certains, étant donné que vous êtes.
Alors, à ce moment-là, tous ceux qui connaissent la loi seraient des contourneurs de loi. Non, pas forcément, non. Mais il faut arriver à une espèce de régulation des comportements judiciaires. Hein. Du reste, moi, je pense que Nicolas Sarkozy, en appel, sera probablement relaxé, hein, parce que les magistrats de la Cour d'appel sont quand même. Plus proche de la Cour de cassation et ils font quand même attention aux motivations.
Enfin, je disais ça dans les motivations, justement, les écritures. On précisait bien que Nicolas Sarkozy était ancien président de la République, avocat, et que c'était sans doute à ce titre que le jugement avait été très sévère. Alors, l'affaire n'est pas terminée concernant Nicolas Sarkozy, puisque.
Non, je vais vous faire remarquer qu'il n'a pas commis des faits en sa qualité d'ancien président. Et il est quand même troublant que les magistrats se réfèrent pour appuyer la condamnation à une qualité qu'il n'a plus. Il y a donc là, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de la psychanalyse judiciaire. C'est quand même l'homme politique qui les a préoccupés.
Non, mais les faits auraient été commis alors qu'il était déjà président de la République.
Non. Ce qu'on lui reproche, c'est pendant la période où il n'est plus président, non.
D'accord.
Sauf erreur de ma part. Hein.
Ouais, ouais. Alors, donc, en tout cas, une nouvelle affaire qui va être plaidée cette semaine, enfin jugée, c'est l'affaire dite Big Malion. Hein. Elle commence mercredi prochain. L'ancien président est accusé de financement illégal de campagne. Alors, la question était, est-ce que Nicolas Sarkozy était au courant? Quelle peine encourt-il cette fois, selon vous? Est-ce qu'il risque cher, au-delà de la peine à proprement parler?
Honnêtement, je m'interdis de faire de la divination sur le destin judiciaire de qui que ce soit.
Vous pensez qu'il peut revenir, Nicolas Sarkozy, un jour, quelle que soit l'issue de ses histoires judiciaires?
Oui. En politique, bien sûr, tout le monde revient en politique. Tout le monde. Regardez Carignan. Bon, il n'a pas été élu, d'accord, mais...
C'est peut-être pas une référence très 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 sympa pour Sarkozy, parce qu'il a fait de la prison.
Non, c'est pas la meilleure, mais c'est la plus thanatopraque. Pratique, hein, c'est un mort vivant, lui. Bon, mais il n'y a pas de rapport entre lui et Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'en politique, tant qu'on n'est pas mort, mais d'une mort physiologique, on peut revenir. Ça, c'est un des mystères magiques de la politique.
Gilbert Collard, vous êtes notre invité jusqu'à 14h. Encore un quart d'heure avec nous dans Les Incorrectibles. Restez avec nous. On revient dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisot.
13h passées de 45 minutes, encore un quart d'heure dans notre émission ce dimanche, comme d'habitude, en direct à la radio, mais aussi en live vidéo sur les réseaux sociaux avec notre invité. Il s'agit du député européen Gilbert Collard, qui est avec nous en duplex du Rassemblement National, bien évidemment. Alors, on parlait bien sûr de l'actualité judiciaire de Nicolas Sarkozy. On va, si vous le voulez bien, pour ce dernier quart d'heure, reparler d'autres sujets autrement plus graves, hein, puisqu'il s'agit cette fois des entre jeunes. Cette semaine a de nouveau été marquée, vous le savez, Gilbert Collard, par des faits divers sordides impliquant notamment le meurtre d'adolescents par d'autres jeunes du même âge. Lundi dernier, c'était Alisha, une jeune fille de 14 ans qui a été retrouvée noyée après avoir été battue par deux lycéens âgés de 15 ans, un garçon et une fille qui lui auraient tendu un piège. Les deux adolescents accusés du meurtre ont été mis en examen pour assassinat avec préméditation. Leur crime est passible de 20 ans de réclusion criminelle au lieu de la perpétuité en raison de leur minorité. Ils seront jugés devant un tribunal pour enfants statuant aux criminels. Vous, en tant qu'avocat, mais aussi en tant que citoyen, père de famille, quelle est votre réaction, Gilbert Collard?
D'abord, comme tout le monde, hein, j'ai été consterné d'apprendre cette horreur. On a l'impression que les films d'horreur qu'on voit sont entrés dans la tête d'une génération déboussolée. C'est très compliqué sur le plan criminologique à comprendre. Il y a une violence qui s'auto-justifie, c'est-à-dire qu'elle se donne pour passer à l'acte des motifs qui, quand on les découvre, apparaissent futiles, insensés. Il y a tout un monde derrière cette violence. Et ce monde... il accuse l'ensemble d'un système qui est le nôtre. Si on fait l'énumération des facteurs criminologiques, parce que là, il faut faire, c'est pas une analyse simplement éthique, c'est une analyse criminalistique qu'il faut faire. Il y a d'abord le fait que la famille, Darmanin l'appelle aujourd'hui à la responsabilité, mais elle a été complètement détruite. Et si vous prenez le manuel de criminologie du professeur Gassin, vous avez tout un chapitre sur la destruction de la famille comme outil d'encadrement, comme outil d'éducation. Vous avez l'école qui ne peut plus faire le relais parce qu'on n'apprend plus dans la sphère familiale et l'école ne relaye plus, ce qui n'existe plus. Une école qui est perdue. J'ai appris qu'à Bondy, un lycéen, je crois, a été... renvoyé de l'école parce qu'il avait donné un coup de couteau à un de ses camarades. Et le rectorat a ordonné qu'il réintègre l'école ou le lycée. Donc, les professeurs vont avoir l'air de cocus rectoraux devant ce jeune. Monsieur Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, dans un livre, nous raconte ce qu'est devenu l'école. Les profs ont peur, ils n'ont plus d'autorité, ils n'arrivent plus à se faire respecter. Bon, on a le témoignage de monsieur Le Maire, cet enseignant philosophe qui nous a dit à quel point… Bon, tout est détruit. On a tout détérioré. L'éducation, la famille, dans sa structure d'encadrement, hein, je ne parle pas de la vieille famille archaïque telle qu'on aurait pu la concevoir au 19e, bien évidemment, celle-là, elle est démodée. Bon, la sécurité n'existe plus.
Enfin, Gérald Darmanin annonce prendre le problème à bras-le-corps, il dénonce même la mollesse, souvenez-vous, face à Marine Le Pen, sur cette question de la sécurité, il avait l'air de dire qu'elle était plutôt molle.
Il la prend à bras-le-corps, mais il n'a pas de corps, pas de bras, bon, parce que depuis qu'il est là, je n'ai pas vu d'amélioration, moi. Hein. Vous comprenez, tant qu'on aura dans notre vocabulaire, avec une réalité derrière les mots, des zones de non-droit et des territoires perdus de la République, on sera foutu. On a laissé s'installer dans les banlieues, dans des quartiers, dans des cités, toute une sous-culture, d'où l'importance de la culture, toute une sous-culture de la délinquance, de la criminalité, de la violence. Aujourd'hui, dans certains quartiers, il vaut mieux avoir une condamnation à son casier qu'un CV. C'est préférable. Bon. Et on a laissé prospérer pour avoir la paix, parce qu'on a acheté comme des lâches la paix sociale, on a laissé prospérer toute une économie souterraine qu'on s'est bien gardé d'éradiquer. Et aujourd'hui, cette économie souterraine, elle a gangréné, elle dégénère, elle aboutit à des règlements de compte. Si on ne met pas très vite, avec l'autorité qu'il faut, hein, et avec le courage qu'il faut, ce qui manque, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les moyens, c'est le courage d'y aller. Tant qu'on ne le fera pas, on se prépare des lendemains qui peuvent être tragiques. Parce que le jour où l'économie souterraine ne va plus satisfaire les gens qui sont armés de kalachnikov, de barres de fer, de grenades, ça va faire mal.
Mais alors vous, Gilbert Collard, si demain vous êtes au pouvoir, si le RN est au pouvoir, quelle solution pour endiguer ce phénomène de bande, qu'est-ce que vous feriez?
Oh, d'abord, je mettrai en sécurité les professeurs. Et ensuite, je ne tolérerai pas qu'il y ait une seule zone de non-droit.
Non, mais ça veut dire quoi, concrètement, les mettre en sécurité?
Ça veut dire que...
Mettre un policier dans chaque classe?
Mais à un moment donné, rappelez-vous, il était question qu'un policier soit installé dans une école. Ce sont les profs qui l'ont pas voulu. On l'oublie, ça. Ce sont les professeurs qui ont dit, mais c'est un scandale qu'on ait comme préfet ou comme surveillant général un ancien policier. C'est inacceptable. Ce qu'il faut, c'est pas tolérer. Je veux dire, bon, il y a un règlement de compte dans une cité, on y va. Bon, mais on y va. Ça, il va y avoir un choc, c'est clair. Il va y avoir un choc. Mais il y aura un premier choc, un deuxième choc, et après, il y aura la tranquillité. Je veux dire que c'est pas possible. Comment on peut accepter que dans un pays démocratique, républicain, il y ait des zones dites de non-droit? Mais enfin, le non-droit, c'est la négation de la République. Le non-droit, c'est la négation du droit. Comment on peut le tolérer? Force doit rester à la loi. Et j'arrive pas à comprendre, mais comment on peut accepter que nous vivions dans un système pareil? Alors, c'est vrai qu'il faut avoir le courage d'y aller. Eh bien, on y va, voilà. Hein.
Est-ce qu'il faut sanctionner les parents des mineurs, par exemple?
Alors, les parents des mineurs, ils ont une responsabilité civile, hein, sauf s'ils prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher l'acte. Bon, c'est le code civil qui le prévoit. Vous savez, on a tout dans nos lois. Maintenant, moi, je serais assez partisan de sucrer certaines allocations dans des conditions de contrôle très rigoureuses aux parents qui manifestent, je dis bien manifestent, un abandon absolu de l'éducation de leurs enfants. Là, il faut une sanction, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute.
On sait souvent que c'est l'échec scolaire et l'exclusion sociale aussi qui peuvent découler, hein, provoquer ces problèmes-là. Vous, au Rassemblement national, vous faites souvent le lien entre immigration et délinquance. Vous continuez à maintenir ce lien et souvent à faire ?
Oui. Bon, il y a des étrangers et des migrants qui sont irréprochables. Moi, je ne ferai jamais la folie de généraliser. Et je suis même embarrassé quand je dois dire la vérité sur l'immigration, parce que j'ai peur que cette vérité, elle gifle quelqu'un qui ne la mérite pas, voyez-vous? J'en ai peur. Mais on n'arrive plus à gérer l'immigration. Je veux dire, c'est une évidence qui est dite, qui est reconnue, bon, par tout le monde. Et ceux qui auraient droit à une immigration respectable ne l'ont pas parce qu'on a toléré des migrants qui n'avaient pas à être sur le territoire, qui ont été quelque part des escrocs à notre humanitarisme. Et de leur fait, des gens qui auraient mérité un véritable asile l'ont pas. C'est quand même grave de conséquences. Et moi, je pense qu'on doit pour le bonheur même de ceux qui ont le droit à l'asile, réellement, on devrait être intraitable avec ceux qui escroquent l'asile ou avec ceux qui escroquent la bienfaisance du pays.
Gilbert Collard, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Vous êtes, je le disais, en duplex. Pour terminer, on va revenir un instant sur cette crise sanitaire. Beaucoup évoquent un possible reconfinement, notamment en Île-de-France. La politique sanitaire du gouvernement est critiquée très souvent. Est-ce que vous êtes pour un nouveau reconfinement? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent sur cette question-là, si vous aviez été au
Alors,
pouvoir?
bon, je veux dire que face à ce virus, on n'a pas le droit de faire le fanfaron. Moi, je déplore, mais vraiment, l'incapacité de ce gouvernement à se coordonner dans la lutte contre la pandémie. On a bien vu, on ne va pas reprendre l'histoire, hein, bon, les masques, on ne les avait pas, les blouses, on ne les avait pas, les surblouses, on ne les avait pas. Aujourd'hui, le vaccin, on n'a que 6% de la population qui est vaccinée, alors que dans d'autres pays, c'est très différent et qu'on enregistre un échec. La vérité, pour moi, elle tient au lit de réanimation. Si nous avions suffisamment de lits de réanimation, on pourrait faire face, dans des conditions sanitaires dignes, à l'offensive pandémique qui est loin, loin d'être terminée. Mais on n'a pas les lits. Ils avaient été promis et on ne les a pas. Mettez-vous à la place d'un chef de service qui doit opérer des choix entre les malades parce que ces lits de réanimation sont surchargés et qu'il n'a plus la place. La vérité, elle est là. On ne veut pas le dire, mais c'est l'échec dramatique, mais dramatique, de ce gouvernement de ne pas avoir tout de suite mis le paquet sur la transformation immédiate, immédiate, je dis bien, de l'hôpital pour faire face en termes de lits de réanimation à la pandémie. C'est ça qui nous. Pourquoi? On déplace des malades d'une région à une autre, vers l'Occitanie par exemple, parce qu'en Île-de-France, on n'a plus de lits de réanimation. C'est-à-dire que, faute de place, la seule place qui reste, c'est le cimetière. C'est horrible. Et ce gouvernement en sera comptable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilbert Collard, d'avoir accepté notre invitation cette semaine dans Les Incorrectibles. Merci à Quentin
Merci à
Kamanis,
vous.
à la réalisation, à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Alors à Pierre, au digital, toutes nos émissions sont disponibles, on le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h en direct, comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio.